Nous allons commencer le cycle entamé sur l'action diplomatique se poursuit. Nous avons donc eu déjà un écho avec Madame Leila Shahid, qui représentait donc la diplomatie palestinienne, mieux d'ailleurs que la diplomatie elle-même, je pense, d'être blessée de son pays, je pense. Et ensuite, nous avons eu Nassif Etti pour la Ligue arabe. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir M. Yves Aubin de la Messusière, qui, en quelque sorte, incarne ce magnifique corps d'Orient de la diplomatie française. Alors, vous ne savez pas, évidemment, ce qu'on appelle un Orient. Jadis, vous aviez des droguements qui étaient dans les ambassades, et dans la mesure où ces droguements étaient là pour parler la langue des pétres, c'était eux qui géraient une grande partie de l'action politique, et ces droguements étaient établis sous Louis XIV, Colbert, les jeunes de l'homme, juste à côté d'ici, au collège Louis le Grand. Et donc, ces Orients ont disparu, ces droguements ont disparu à la fin du XIXe siècle, pour être remplacé par le corps d'Orient du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire des diplomates de plein titre, mais qui sont recrutés par un concours fondé sur la connaissance de langues dites orientales, qui ont un peu varié, puisqu'à un moment même l'allemand était considéré comme une langue orientale, et aussi par un éventail de disciplines qui se rapprochent de celui de l'ENA. Donc, le corps diplomatique français est composé soit d'énarques, soit d'Orient. Alors, en général, les Orients, à l'exception des Orients arabes, ne font pas énormément de travaux dans leur zone de compétences particulière. Tout simplement, si vous êtes recruté sur le chinois ou sur l'hindi, vous pouvez passer qu'une ou deux fois à l'ambassade correspondante et une ou deux fois dans la centrale correspondante. Mais les Orients arabes sont très spécifiques, vu qu'il y a 22 ambassades dans les pays arabes, ils tournent largement dans les ambassades, donnant donc une spécificité à la diplomatie française dans le monde arabe, c'est qu'il y a pratiquement toujours dans une ambassade française, dans le monde arabe, au moins un diplomate de haut rang qui connaît la langue, ce qui est plus rare dans les autres ambassades. Alors, en même temps, je pense que ce sera abordé dans la discussion, ces Orients et ces Arabisants sont parfois condamnés pour d'autres tendances politiques qui les accusent de partialité. Mais en tout cas, je considère que les Orients, c'est une des gloires de la diplomatie française. Alors, cher ami, si on avait un historien qui aurait aimé faire des vies parallèles, nos vies ont été un peu parallèles, au sens où j'ai dû entendre parler de vous pour la première fois au moment où vous passiez le concours d'Orient, parce que mon professeur d'arabe, Georges Douillet, me l'avait signalé, et puis nous sommes régulièrement croisés dans nos carrières respectives, quand vous étiez conseiller en Égypte, par exemple, ou quand vous dirigiez l'action culturelle extérieure de la France. En tout cas, vous avez une carrière magnifique, puisque vous allez aborder. Vous avez d'abord commencé sur votre premier poste en plein septembre noir en Jordanie, et vous en avez été d'ailleurs grièvement meurtri au sens physique du terme, et puis vous avez eu différents postes, je rappellerai le Tchad en particulier, l'Irak, la Tunisie, et puis vous avez eu le magnifique accomplissement qui montre que maintenant il n'y a plus de différence réelle entre les Orients et les Énarques. Vous avez eu Rome comme dernier grand poste, et puis ensuite, quand vous avez quitté le corps diplomatique, vous avez présidé la mission laïque française, qui est aussi une œuvre importante. Donc il est temps que je vous cède la parole, je vous en prie, et merci d'être venu.
Monsieur le professeur, cher Henri Laurence, merci de m'avoir invité ici au Collège de France. Ça fait fort longtemps que je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir. Et puis j'ai toujours le souvenir, c'était une autre salle, des cours d'Henri Laoust que je suivais parce que je faisais un DEA. C'était pas, ça ne s'appelait pas DEA à l'époque, d'islamologie. Et alors, puisque vous avez parlé là, du passé, mais moi, dans la tradition de ces drogments, sur lequel j'essaie de faire peut-être une nouvelle étude, un livre peut-être, et de ce corps d'Orient dont je suis issu. Moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe au lycée Louis-le-Grand, parce que j'étais pensionnaire, ma mère était au Maroc, et j'avais une espèce de frustration, parce qu'au Maroc, j'entendais parler l'arabe, et je n'ai pas suivi de cours d'arabe, bien entendu, et j'arrive à Louis-le-Grand, et donc j'ai vu qu'il y avait des cours d'arabe, c'était le professeur Lecomte à l'époque qui était le... et donc j'ai suivi, c'est comme ça après, et je me destinais plutôt à l'agrégation d'arabe, et poussé par mon ami Georges Douillet dont vous avez parlé, et puis comme je faisais ma coopération en Algérie, j'ai fait une rencontre tout à fait étonnante, c'est Stéphane Hessel qui était le numéro 2 à l'ambassade chargé de la coopération, il y avait une coopération formidable. Et donc, quand je l'ai rencontré avec d'autres jeunes professeurs, moi, j'étais d'ailleurs, j'enseignais l'arabe à des Algériens. C'est quand même assez étonnant. Hein. Je me souviens en avoir parlé avec Bouteflika au début, lorsqu'il avait trouvé ça tout à fait étonnant. Alors donc, et c'est comme ça que j'ai passé le concours d'Orient avec l'arabe, section arabe, à partir d'Alger. Voilà. Donc, j'ai eu la surprise de réussir. Et c'est comme ça donc, que je me suis trouvé, à l'époque, aucune formation. On vous envoyait d'emblée sur le terrain. J'étais nommé amman à la veille de Septembre Noir. Et comme vous le disiez, j'ai failli avoir la carrière la plus courte du Quai d'Orsay, puisque j'avais été, par hasard, un peu grièvement blessé. Et voilà, donc ça, c'est le début de ce qu'on appelle la carrière. D'ailleurs, c'est assez étonnant, d'ailleurs. Quelles sont les origines? Pourquoi on parle de la carrière? Pour dire, ben voilà, c'est un agent de la carrière, pour parler des diplomates titulaires. Il est de la carrière, vous voyez. On ne le dit que pour les diplomates, c'est assez étonnant. Mais je voulais un peu contester parce que je n'ai jamais voulu être carriériste, en quelque sorte. C'est un peu le hasard qui m'a porté vers des postes importants que je n'avais pas forcément demandé. Ce sont les circonstances, ce sont les rencontres, et voilà comment on arrive... Alors bon, j'ai atterri, on va commencer par la fin, à Rome, c'était mon exotisme après avoir été à Bagdad dans des conditions difficiles, ambassadeur au Tchad aussi dans des conditions difficiles, en Tunisie c'était pas si simple, et me voilà à Rome non italianisant, donc je l'ai dit parce que j'ai écrit un livre, là je vais vous en parler, Profession diplomate, ça a été sans doute une erreur parce qu'un ambassadeur dans l'Europe d'aujourd'hui doit être surtout un communicant et donc doit connaître la langue, et notamment la langue italienne, que je ne connaissais pas, donc je l'ai apprise dans la précipitation, mais je ne pouvais pas véritablement, disons, communiquer. Et voilà, mais ça a été sur un poste tout à fait intéressant, hein, parce que l'Italie, et donc j'y ai passé mes deux dernières années de ce qu'on appelle ma carrière. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, j'ai écrit, il faut que je fasse la promotion de mon livre, je ne gagne rien parce que j'ai signé un contrat, puis c'est terminé avec plomb. C'est mon troisième livre d'ailleurs, et j'avais écrit un livre il y a 3 ans autour du monde arabe, le monde arabe, le grand chambardement. C'est un livre d'analyse au regard de ce qu'on appelle les printemps arabes, même si je conteste ou j'ai contesté effectivement cette appellation. Et puis là, j'ai écrit un livre qui n'est pas à proprement parler profession diplomate, un livre de mémoire. Mais j'ai voulu saisir, disons, l'occasion de présenter une partie de mon parcours pour mieux illustrer ce qu'est la profession. Parce que ce qui m'avait frappé, alors que j'étais à Rome, on m'avait confié la présidence du Conseil des Affaires étrangères. Il y avait des réunions tous les 2 ou 3 mois, donc j'allais à Paris. Et c'était un conseil qu'on m'avait demandé de constituer, de réflexion sur le métier diplomatique, et qui réunissait aussi des personnalités de la société civile, des hommes d'affaires, des journalistes et bien entendu aussi des diplomates. Et puis quelqu'un m'avait fait observer, l'un des membres, qu'en regardant dans la nomenclature des métiers de l'État, profession diplomate, le métier de diplomate n'apparaissait pas. Et alors ça, j'avais l'idée d'écrire un livre, donc ça a un peu tardé pour différentes raisons, parce que même j'ai eu une fausse retraite pendant une dizaine d'années, puisque j'ai présidé la mission laïque française et aussi la mission de préfiguration du MUSEM, le musée de Marseille. Et alors voilà, c'était à partir de là, je veux dire, autrement, il serait important d'écrire un livre sur la profession. Et puis il y a eu un autre déclic qui m'a amené à accélérer, disons, la rédaction de ce livre, qui a demandé quelques années. C'est quand, au moment de l'émergence de ce qu'on appelle les printemps arabes en Tunisie, j'avais été ambassadeur en Tunisie. Et voilà que le président de la République de l'époque, pas besoin de le nommer, ainsi que son conseiller spécial, ils s'en sont pris aux diplomates qui n'ont rien vu venir. Alors les diplomates qui n'ont rien vu venir, c'était les diplomates qui étaient en poste en Tunisie, voire en Égypte. Et... Alors moi, ça m'a mis véritablement dans un état, je peux le dire, de fureur. Je dis comment s'en prendre de manière globale au corps diplomatique. Ben, ce président, il s'en prenait aux magistrats, etc. Donc le corps, puis il avait des relations difficiles avec parfois des ambassadeurs. Et alors j'ai donc écrit une tribune d'abord dans Libération. L'Élysée était au courant. Parce que j'avais une excellente équipe. Il y en a un que vous connaissez très bien, Jean-Pierre Filiu, qui était mon numéro 2. Et puis j'avais aussi un autre, Jean Hanoyer, vous l'avez connu, chercheur aussi. Et Jean Hanoyer. Et puis moi-même, nous étions 3 arabisants. D'ailleurs, il y avait un trop-plein d'arabisants, parce qu'à côté, en Algérie, il n'y a aucun arabisant. Il est important, parce que c'est important ne serait-ce que de lire la presse en langue arabe, qui est très différente de celle en langue française. Et donc, moi, je privilégiais, voilà un aspect du métier et de la profession de diplomate, c'est, on peut voir ce que l'on fait dans le quotidien, qui est très chargé dans tous les postes, pratiquement. C'est-à-dire, c'est l'observation, la représentation, c'est l'observation politique, c'est la défense aussi des intérêts économiques et commerciaux, c'est aussi la dimension culturelle, c'est le fil conducteur de toute ma carrière, donc la francophonie, parce que j'ai été le représentant du président Mitterrand pour les sommets francophones et directeur de cabinet d'Alain Decaux, et puis directeur, comme vous l'avez dit, de la coopération culturelle. Et alors voilà, donc tous les jours, nous faisions des télégrammes au quotidien. Et il y avait les contacts riches, puis les contacts avec la société civile, qui étaient très compliqués quand on était ambassadeur en Tunisie. Parce que pour Ben Ali, avoir des contacts avec la société civile, c'était avoir des contacts avec des opposants, c'est-à-dire des associations reconnues. Par exemple, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et aussi l'Association des femmes démocrates, avec lesquelles j'étais souvent en contact, et puis aussi avec les formations politiques. Alors moi, j'avais dit à toute mon équipe, mais quand j'entends l'équipe, c'est à la fois, disons, le cœur de l'ambassade, c'est-à-dire les diplomates, et on n'était pas très nombreux, 4-5, et puis aussi on associait le service commercial, le service culturel, bien entendu, l'attaché de défense, pour avoir de temps en temps une réflexion. Prenez le temps de la réflexion. Et ça, c'est le cœur du métier, d'anticiper, d'analyser. Et même, j'ai restauré en quelque sorte un petit peu la dépêche qui était tombée en désuétude. On en faisait 2 ou 3 simplement, mais sur des thèmes très particuliers. Et grâce à cette réflexion qui a demandé du temps, donc ce travail d'équipe, eh bien, nous avons écrit 2 télégrammes que j'ai retrouvés en 2004. Un qui s'appelait « La Tunisie en 2010 ». Et on n'était pas très loin, justement, de la révolution, là, en Tunisie. Et on disait simplement que pour Ben Ali, ce serait difficile de se maintenir s'il n'y avait pas une ouverture. Et alors on a analysé tout ceci. On a fait un autre télégramme un peu plus tard pour dire s'il y a une alternance, elle sera islamiste, c'est-à-dire le parti Nahda qu'on appelle islamo-conservateur, bien, qui était ou dans la clandestinité ou en exil extérieur. Et puis il y avait 1 million encore de membres de Nahda qui étaient emprisonnés. Alors ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'ai demandé au Quai d'Orsay l'autorisation de publier les télégrammes. Et je l'ai eu. Donc on a publié dans un livre que j'ai écrit à la demande d'un éditeur tunisien qui s'appelle Mes années Ben Ali. Et donc c'est 2 ou 3 télégrammes. Et j'ai biffé effectivement quand il y avait des mises en cause de certaines personnalités tunisiennes. Parce que, bon, ils étaient recherchés ou ils étaient en prison. Mais simplement, c'était l'aspect d'analyse. Et puis nous avions fait aussi, pour voir beaucoup de choses, une grande dépêche. Ça, c'était Jean Hanoyer, il a fait un travail considérable. Avoir 20 ans en Tunisie, Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, on voit beaucoup de choses. Que le mal-être de la jeunesse, et d'ailleurs ce mal-être de la jeunesse, il est commun à l'ensemble des pays arabes qui ont connu les révolutions ou les printemps, ce qu'on appelle les printemps arabes. Et ce mal-être de la jeunesse qui amène certains à traverser la Méditerranée au péril de leur vie, d'autres vont rejoindre les réseaux djihadistes, c'est ce qu'on a observé lorsque nous étions, et d'ailleurs c'était quasiment, et encore maintenant, l'une des nationalités les plus importantes, peut-être la deuxième ou la troisième dans les réseaux islamistes. Et puis d'autres, même diplômés, il n'y avait pas que les chômeurs, il y avait des diplômés aussi qui voulaient fuir le pays parce que absence de liberté, absence d'avenir, etc. Et d'ailleurs, avoir 20 ans en Tunisie a été publié dans un livre sur les sociétés civiles dans le monde musulman. Et c'était, j'ai oublié le nom, celui qui avait dirigé ça. Alors voilà, donc ça a été, disons, un déclic. Et puis il y en a un autre déclic, plus amusant, qui m'a amené, disons, à précipiter un peu les choses, c'est la bande dessinée Quai d'Orsay, que beaucoup d'entre vous ont lu, et puis suivi du film de Bertrand Tavernier, hein, aussi, Quai d'Orsay, un film assez étonnant aussi. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Alors on y voit un ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, ministre inspiré et entouré d'excellents collaborateurs, son directeur de cabinet, là, Pierre Vimont, et puis ceux dans son cabinet qui établissent les éléments de langage. Nous étions en 2003, c'est là où on décrit ce grand épisode qui était un grand moment de la diplomatie française, c'est le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité. Et donc, finalement, ni les services au Quai d'Orsay, qui étaient impliqués, disons, dans cette politique d'isolement des Américains au Conseil de sécurité, pour éviter qu'ils aient l'aval du Conseil de sécurité pour envahir l'Irak. Alors, il y a eu et puis les diplomates qui étaient en poste, donc, là aussi, un petit peu invisibles, alors qu'on avait, on en parlait là tout à l'heure, de la Sablière, qui était le représentant permanent au Conseil de sécurité, qui a fait un travail considérable pour arriver à ce fameux discours et à ce résultat, qui était un résultat important, puisque on a pu... Alors je dis au passage, ce qui était très important, c'était d'éviter que les Américains déposent leur résolution, parce que s'ils déposaient leur résolution, c'était la politique de Chirac qui était extrêmement claire, on opposait notre veto. Alors ce qu'il fallait, c'est les isoler pour qu'ils n'aient pas la majorité. Donc, il fallait faire un travail d'approche considérable, non pas auprès des membres permanents du Conseil de sécurité, il y en avait deux qui étaient favorables à la guerre, les États-Unis donc, et la Grande-Bretagne, et puis la Russie, la Chine et la France y étaient hostiles. Mais les non-permanents qui comptent, c'est-à-dire il fallait qu'ils aient cette voie. Eh bien, ce sont des pays plus ou moins importants. Et là, il y a eu un travail considérable, et ça a été le rôle des diplomates, des ambassades, pour les approcher, pour les amener, disons, à s'abstenir, en tout cas, et ne pas voter, et empêcher en quelque sorte le dépôt de la résolution. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce grand moment. On n'a pas eu à opposer notre veto, puisque les Américains n'ont pas pu déposer leur résolution. Alors moi, je trouve que s'il y avait un chercheur, ou peut-être un diplomate, de faire La Sablière, il a écrit un livre de souvenirs dans les coulisses du Quai d'Orsay, je crois, où il en parle, mais il faudrait faire une analyse très pointue, peut-être il y a eu un millier de télégrammes, une correspondance diplomatique extraordinaire, pour arriver à ce grand moment. Alors voilà, donc ça a été aussi l'un des déclics. Et puis aussi, il y a les préjugés autour des diplomates, mais c'est extraordinaire, on n'en sort pas. On a eu un ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas si longtemps, très brillant, qui a lancé le concept, croyait-il, de la diplomatie économique. Or, dès le XVIe siècle, nos consuls de France, qui étaient au Levant, ils faisaient de la diplomatie économique. Ils représentaient les grandes compagnies. Et puis, on a toujours fait de la diplomatie économique. Bon, mais qui donne un nouvel élan, peut-être, pour amener les ambassadeurs à se mobiliser davantage, pourquoi pas. Mais enfin, en tout cas, tout ambassadeur, il le fait, évidemment, ça dépend plus ou moins bien, s'implique, surtout quand il y a des grands projets. Et ils sont proches il y a un service économique, là, bien entendu. Et c'est une partie importante. Alors, au cours d'une conférence des ambassadeurs, moi j'y ai assisté en tant que président de la mission laïque, j'étais invité en quelque sorte. Alors il a fait un discours devant les ambassadeurs, disant, vous vous intéressez surtout à la grande politique, mais il n'y a pas que la grande politique, il y a aussi la diplomatie économique. Et si véritablement vous ne faites pas un effort, vous finirez par ressembler à ce personnage de la recherche du temps perdu de Proust, le marquis de Norpois. Alors, si ceux qui... C'est intéressant de relire, si vous avez Proust chez vous, ce qu'il pouvait dire, Proust, de ce marquis de Norpois, cet homme qui déversait des sauts de bêtises, de sottises, avec son ton un petit peu emprunté. Et tout ça, ça revient. On le voit même dans la publicité, autour de la publicité. Vous vous souvenez du chocolat Ferrero, c'est-à-dire la gourmandise préférée des ambassadeurs, ou les ambassadeurs, les diplomates à la tasse de thé, etc., etc. Mais c'est que ça continue. Et puis, j'ai été invité hier, il y a peu de temps, sur le thème, parce qu'il tenait, à quoi servent les diplomates? Et ce que retiennent les gens, en général, c'est l'aspect représentation, qui est important, parce qu'on représente le président de la République, les membres du gouvernement, et on doit recevoir, bien entendu. Et je vais vous dire, par exemple, quand j'étais ambassadeur à Rome, dans ce palais, qui est le plus beau palais de Rome, d'ailleurs, ce que me disait le président de la République, forme un peu de reproche, la France est là, mais ça fait partie du patrimoine italien, puisqu'on n'en est pas propriétaire, donc on est un euro symbolique, et pas du tout adapté au travail diplomatique moderne, ça, il faut le dire, ça a un peu choqué au Quai d'Orsay quand je l'ai dit. Bon, on est là jusqu'en 2036. Et donc Stéphane Bern, que vous connaissez, hein, qui aime bien les palais de la République, et il m'approche, il voulait faire une émission sur le palais Farnèse. C'était la énième émission sur le palais Farnèse, et si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, présenter les fresques, le salon des Carrages, etc., enfin bon, et les fastes farnésiens, et toute cette richesse de la Renaissance extraordinaire. Et alors j'ai accepté une seule condition, c'est parce que je me souvenais d'un précédent ambassadeur à qui on a fait promener aussi dans les salons. Et puis, qu'est-ce qu'on a retenu? C'était, je crois, sur France 2. C'est l'ambassadeur faisant une réception un peu mondaine, parce qu'on est obligé de verser dans la mondanité quand on est ambassadeur en Italie. Et puis, dans les cuisines, préparant, regardant, surveillant les plats. Et puis, finalement, il est tourné en ridicule. Alors, moi, j'ai dit, j'accepte à une seule condition. Moi, j'ai fait une exposition, Lucia di Pietra, sur la création contemporaine, avec Christian Boltanski, avec Claude Lévesque, avec des Italiens comme Cucchi, Cunnelis, les plus grands, autour de la lumière. Donc c'était ouvert, et puis des milliers de Romains sont venus au Palais Farnèse pour voir cette exposition. Et il y avait une trace, puisque le ministre de la Culture, qui est venu donner de Vabre pour l'inauguration, avait accepté d'acquérir une œuvre, qui était acquise par le ministère de la Culture, qui était dans les sous-sols du Palais Farnèse. Donc ça n'a rien à voir avec les fresques. Et il a accepté. Il y a eu le tournage, c'était une très belle œuvre, une installation. Et bien, quand j'ai vu le résultat de l'émission, rien. Donc, il n'a retenu. Et puis, mes amis m'ont dit, franchement, tu n'avais pas l'air très à l'aise, là, en train de présenter. Effectivement, très souvent, je disais, dans ce livre-là, je fais un sous-chapitre, s'agissant de l'Italie, pour dire, ni guide, ni hôtelier. Parce qu'il y a souvent, vous avez des personnalités politiques qui arrivent un vendredi, puis qui vous demandent gentiment, par leur cabinet, mais je voudrais bien rester en famille au Palais Farnèse. J'ai toujours refusé. Et les ministres venaient seuls. Alors, de temps en temps, effectivement, pas très heureux. Et je voulais arrêter cette espèce de cycle. Et puis d'autres, des hommes d'affaires, qui voulaient, quand ils venaient me voir, c'était simplement pour faire visiter, ou à leur épouse, ou à leur ami, disons, le Palais Farnèse. Alors voilà, donc c'était le... Alors donc j'ai fait... Je ne vais pas décliner... Évidemment, ma carrière, ce n'est pas l'objet, mais pour vous dire comment, selon les postes et les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les ambassadeurs. Et là, je vais dire deux mots sur la France-Afrique. Mon premier poste d'ambassadeur, c'était au Tchad. Je suis arrivé dans les bagages d'Idriss Déby, parce qu'à l'époque, eh bien, quand il y avait un changement, Issa Nabré avait fui, Idriss Déby accompagné par la France, aidé par la France. Il y avait des raisons, effectivement, parce que on sait, disons, les crimes commis par Issa Nabré, épouvantables, et puis une relation très médiocre entre la France et Issa Nabré. Et donc j'arrive un peu par surprise au Tchad, ce n'était pas du tout ma vocation, mais je l'ai accepté par amitié, parce que j'avais suivi toute l'affaire Claustre pour différentes raisons, et notamment... une relation très amicale avec Raymond Depardon, qui avait été celui qui avait vu les otages Avec Marie-Laure de Decker, c'était dans les années 70. Et alors là où c'est très difficile, parce que c'était un poste passionnant, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, non pas en franco-tchadien, mais en franco-français. C'est ce que j'appelle les réseaux. C'est-à-dire, vous aviez des réseaux politiques, chacun des services croyait avoir sa propre politique. Et un ambassadeur, eh ben, il est là pour faire de la représentation, de faire quelques analyses brillantes, comme disait François Mitterrand, qui n'aimait pas trop les diplomates. Au moins, ils savent écrire, pour parler des diplomates. Et alors, c'est ce qu'on attendait de moi, certains, et le Quai d'Orsay était marginalisé. Dans le Tchad, il y avait des enjeux considérables, pour toutes sortes de raisons. Et donc, vous aviez le ministère de la Coopération, vous aviez le ministère de la Défense, vous aviez les services, donc la DGSE, bien entendu, et puis vous aviez à l'Élysée, donc pour comprendre, dans des dossiers très sensibles, que ce soit conduit à l'Élysée, mais vous aviez, des divergences entre la cellule africaine et puis la cellule diplomatique. Et quand j'arrivais à obtenir des réunions sous la présidence du secrétaire général avec des représentants, parce que je voulais savoir quelle était véritablement la ligne, puis j'essayais, de faire valoir mon point de vue, eh bien, ils se disputaient devant tout le monde, cellule diplomatique, cellule africaine. Donc il y avait une incohérence dans notre politique, une incohérence. Et c'était la véritable difficulté. Et puis, vous aviez les réseaux politiques. Et puis, il y avait les réseaux politico-commerciaux. Et par l'odeur du pétrole attiré, parce qu'il y avait des perspectives, je suis beaucoup occupé pour défendre la perspective de la venue de Elf. Alors, comme il y avait beaucoup de préjugés, parfois peut-être assez justes, ce que me disait Idriss Déby, on ne veut pas d'Elf parce que Elf fait trop de politique. Voilà. Et puis aussi, parce qu'il y avait eu des... Je crois que c'était au Congo. Mais enfin, on y a réussi. Donc j'avais tous ces réseaux et puis parfois des tentatives de déstabilisation. C'est-à-dire, j'ai failli être appelé à plusieurs reprises. Et grâce à Jox, qui était venu en mission, parce que le dispositif épervier dépendait du ministre de la Défense, j'ai pu d'abord avoir la ligne, enfin, avec un document écrit, un émissaire du président de la République qui est venu et qui a dit... Il a rencontré en tête-à-tête Idriss Déby. Celui qui fait la ligne, c'est l'ambassadeur de France. Nous lui faisons confiance. Comme ça. Mais ça a été compliqué. Alors, pour vous dire, parce que pour parler de l'actualité, à un moment, Idriss Déby était menacé parce qu'il y avait des tentatives de retour de Hissène Habré, de ses troupes venues du Niger. Et il m'appelle en pleine nuit et pour me dire si vous pouviez appeler le président de la République, François Mitterrand, Je voudrais avoir un appui feu du dispositif épervier. Nous avions des Mirage 2000. Et pour arrêter, effectivement, cette tentative de retour des forces d'Hissène Habré. Alors moi, je lui ai dit, on était en fin 91, c'est pas dans l'air du temps, monsieur le président, mais ceci dit, je vais appeler l'Élysée, j'ai eu l'agent de permanence, on a même réveillé Mitterrand, et j'avais proposé à cet agent, j'avais dit on préfère peut-être un survol d'intimidation, mais tout de même, un appui-feu, ça a posé des problèmes. C'est quand même bon. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un survol. Les troupes Habré se sont arrêtées. Et puis, Idriss Déby a repris le dessus. Et voilà qu'il y a quelques années, vous avez vu ça, donc, pour sauver le soldat Idriss Déby, il faut reconnaître qu'il nous rend service, là, au Mali, hein, même si certains considèrent que ce sont des troupes supplétives, qui ont beaucoup de pertes. Et voilà qu'il y a, à deux reprises, il y a plusieurs années, où notre dispositif aérien, c'est toujours épervier, maintenant intégré dans Barkhane, eh bien, qui est intervenu parce qu'il y avait une colonne qui se dirigeait vers N'Djamena. Elle a été donc bombardée, et c'était des opposants à Idriss Déby. Il se trouve que celui qui conduisait cette colonne, je l'ai connu, c'était le directeur de cabinet d'Idriss Déby. Zagawa, comme lui, même du clan Bidaya, très proche. Et c'est pas... Alors, il y a eu une communication très ambiguë gouvernementale, laissant entendre que c'était des djihadistes. Mais pas du tout. Donc, on s'est impliqué dans une affaire interne, et puis il y a eu des dizaines de morts. Voilà. Donc, c'est là où je dis parfois, la France-Afrique, elle a encore de beaux jours. Enfin bon, on va pas parler de l'analyse, je ne suis pas un africaniste, sur ce qui se passe au Mali et puis au Burkina Faso. Là, c'est aussi... Alors, enfin voilà, pour vous dire les difficultés. Alors, j'étais en poste Je vais vous parler de l'Irak. C'était, alors justement, pour vous dire que je ne suis pas carriériste, je trouvais que c'était intéressant d'aller en Irak, parce que j'étais directeur de la coopération culturelle, j'ai passé 4 années passionnantes pour m'occuper de culture. Et puis j'avais une passion pour la région et pour l'Irak déjà ancienne, à travers d'ailleurs des artistes et des écrivains irakiens que je connaissais. Et l'Irak était sous embargo total à l'époque. Et nous n'avions pas de relations diplomatiques parce que Saddam Hussein a rompu les relations diplomatiques avec tous les pays, dont la France, qui avait participé à la coalition en 1990, au moment de l'invasion du Koweït. Et donc, j'ai demandé à être nommé là-bas et je me trouvais avec le titre de chef de la section des intérêts. Et avec un drapeau roumain au-dessus, et le drapeau roumain ressemble au drapeau français, sauf que le jaune est devenu, par le soleil, blanc, si bien qu'on avait l'impression que c'était le drapeau français, mais ce qui me donnait une immunité diplomatique. Et alors certains, moi j'ai dit que ce n'était pas une ambassade là, que je prenais, mais c'était une mission, donc qui a duré 2 ans, et qui était passionnante, et où là la France a joué un rôle, et c'était, nous étions dans la perspective... C'était celle conduite par Chirac et en accord avec Védrine, la cohabitation marchait parfaitement là, à cette époque. Alors j'étais donc là sur le terrain pour convaincre, enfin, les Irakiens, c'était difficile. Et j'ai vu Tariq Aziz, vous vous rendez compte, en 2 ans, j'ai vu 90 fois. Et j'ai fait des nocturnes avec des décalages horaires aux Nations Unies. Il y avait un débat permanent au Conseil de sécurité sur les questions des armements de destruction massive et aussi les questions humanitaires. Alors Tariq Aziz, jamais on pouvait parler au téléphone, donc il me convoquait ou de temps en temps j'allais lui porter des messages. La politique de la France, là nous avions une vraie politique, c'est de favoriser la levée de l'embargo, pour des raisons ne serait-ce qu'humanitaires, tout en faisant pression sur les autorités irakiennes pour qu'ils respectent les résolutions des Nations Unies. C'est nous qui avons réussi à imposer à Saddam Hussein, grâce à Kofi Annan qu'on a fait venir à Bagdad, d'accepter l'inspection des palais présidentiels, même si on savait très bien qu'il n'y avait rien, mais c'était une provocation américaine, en quelque sorte. Alors, souvent, j'étais devenu, finalement, je me suis tellement occupé de ces affaires d'armes de destruction massive, le nucléaire, le balistique, le chimique et le biologique. C'est quand même assez lourd. Et donc, j'étais devenu, en quelque sorte, un peu un expert, sans formation, je voyais des inspecteurs, pas en Irak, mais en France, des spécialistes du balistique, du nucléaire, etc. Et on arrivait à déduire que finalement, il n'y avait pas grand-chose. Le balistique et le nucléaire, on pouvait le faire, mais c'était notre politique. On ferme les dossiers les uns après les autres, et après... Mais le biologique et le chimique, on pouvait avoir des doutes. Mais j'émettais l'hypothèse, quand il y avait des réunions à Paris, que peut-être il n'y a eu plus rien, que Saddam Hussein maintenait l'ambiguïté, c'est une forme de dissuasion. Mais je me faisais engueuler par des... il y avait quand même au Quai d'Orsay, ce que me disait Védrine, vous savez, les néoconservateurs, c'est plus la peine d'aller les chercher aux États-Unis. Ils sont en France et au Quai d'Orsay. Enfin, il m'a dit ça après. Après, il n'était plus ministre. Effectivement, il y avait ce qu'on appelle les occidentalistes, les néoconservateurs. Tout ce que pouvaient dire les États-Unis était juste. Alors, pour vous donner un exemple concret de l'utilité d'avoir un diplomate sur le terrain, c'est qu'un jour, Tariq Aziz me convoque parce que les Américains, au Conseil de sécurité, avaient présenté donc une photo satellite qu'ils avaient prise d'une annexe d'un palais présidentiel en dehors de Bagdad, et où on voyait effectivement un bâtiment. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas envoyer de photos, mais c'était très bien décrit par notre ambassadeur, des tuyaux sortant de partout. Et les Américains avaient dit, ça, c'est un bâtiment, il y a une reprise du programme d'armes chimiques de la part des Irakiens. Alors j'ai dit à Tariq Aziz, écoutez, il y a peut-être une chose, nous sommes 3 représentants des pays permanents du Conseil de sécurité, le russe et le chinois, de vrais ambassadeurs, et moi-même. Et il m'a dit, c'est une très bonne idée. Et il me dit, il nommait jamais Saddam Hussein. Je lui en parlais comme si on s'adressait à Dieu. Je vais lui en parler. Et 3 jours après, grand équipage, on va là-bas. Je n'ai pas pensé prendre une protection, mais en 10 minutes... Ouais, j'ai pu constater ce que c'était. C'était la chaufferie, la climatisation d'un palais qui ressemblait à un hall de gare de Saddam Hussein. Et donc, j'ai fait après mon télégramme pour dire, là, il y a un mensonge. Alors, ce qui est très intéressant, c'était à l'époque de Clinton. Quand on a parlé des mensonges américains qui ont amené à l'invasion de l'Irak, c'était à l'époque de Bush, ils ont monté des dossiers, et bien, ils en faisaient à l'époque, c'était la CIA. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inspecteurs qui étaient des agents de la CIA. On l'a su après, parce que certains l'ont même avoué dans des livres. Et parce que la politique, c'était intéressant à l'époque de Clinton, c'était pas le renversement de Saddam Hussein, parce qu'il pensait « the day after ». Mais c'était « we let him in his box », disait Madeleine O'Brien, « nous le laissons ». Dans sa boîte, dès qu'il avait un peu la tête, on le bombarde. Dès qu'il y a des manquements, effectivement, j'ai connu quelques bombardements lorsque j'étais en poste. Alors voilà, donc c'était l'essentiel de mon métier, c'est un peu de surveiller, en fait, disons, le travail de l'UNSCOM, c'est-à-dire ses inspecteurs. Et puis il y avait la dimension humanitaire aussi qui était très importante. Et puis là, avec effectivement des représentants des Nations Unies, tous les, il y avait l'OMS, l'UNICEF, etc., qui faisaient un excellent travail. Et j'étais observateur d'une société en régression. Ça, c'est terrible. C'était une des sociétés les plus avancées, enfin, du monde arabe, dans tous les domaines. Je suis beaucoup intéressé au domaine culturel, parce que c'était ceux des grands peintres, des grands artistes, des musiciens aussi. C'était véritablement... Parce qu'on pouvait les rencontrer plus facilement que d'autres. Et donc j'ai vu cette dégradation, cette régression de cette société, formée aux États-Unis, en France, en Allemagne. Et bien, effectivement, beaucoup sont devenus des grands spécialistes de ceci ou de cela, sont devenus des fabricants d'armes de destruction massive sur ordre. Et puis alors, il y avait aussi l'aspect commercial, bien entendu, puisque nous avions un certain privilège compte tenu de l'attitude de la France. Et on faisait ça effectivement en respectant les résolutions. C'est-à-dire, il fallait avoir l'aval du système des Nations Unies pour les différentes importations. Voilà donc. Et puis, alors, il fallait surtout. Alors voilà, aussi un rôle qui était important. C'était pas facile. Quand je voyais les grandes entreprises, Total, c'était Christophe de Margerie qui était le numéro 2 de Total à l'époque, qui venait à ces jours. Il y avait des contrats en perspective qu'on ne pouvait signer qu'après la levée de l'embargo. Extraordinaire. Mais je les mettais en garde parce que j'avais toujours sur ma table, quand je les rencontrais, disons, les résolutions des Nations Unies qui sont rentrées en droit européen et donc en droit français. C'est-à-dire, vous pouvez paraffer, mais pas signer. Voilà. Mais ceci dit, les Américains nous dénonçaient parce que nous avions des contacts officiels, c'était Total et Elf, c'était séparé, mais eux, je me suis aperçu qu'ils avaient défonné. Ils étaient présents, les Américains, à travers des Australiens, notamment, des compagnies australiennes qui venaient. Alors voilà, donc il y avait cette dimension qui est importante. Alors, je vais vous parler de la relation que peut avoir un diplomate, un ambassadeur avec le chef de l'État. Donc j'ai eu une relation, on peut dire personnelle, mais pas du tout politique, parce que je n'étais pas du tout de son bord politique. Vous savez, il s'en amusait avec Jacques Chirac. Parce que vous vous souvenez peut-être, il y a un livre qui a été écrit par Christophe Boltanski, qui s'appelle « Chirac d'Arabie ». Alors, quand Chirac est décédé, on a parlé de cette passion qu'il avait. Moi, j'en ai été le témoin à Istanbul, au cours d'une rencontre, d'un déjeuner dans un restaurant japonais. Sa culture japonaise m'avait impressionné. Et d'ailleurs, il faisait venir les résultats du sumo, des compétitions, à Istanbul pour une grande réunion internationale, au cours d'un déjeuner un peu privé. Il avait voulu m'associer, où il se vendait, et puis commentait chacun des résultats. Il les connaissait. Alors, moi, j'étais un peu ébahi. Alors, la culture africaine, on le sait aussi. Et puis, le monde arabe, on le sait moins. Mais peut-être pas la culture, mais en tout cas les hommes. C'était incroyable, ils connaissaient tout le monde. Et tout le monde. Et puis, avec des relations personnelles avec Sheikh Zayed, là, qui était un homme assez extraordinaire, qui était le grand sage du monde arabe, les Saoudiens, puis aussi, aussi les uns et les autres, Hassan II. Et donc, il tenait. Moi, je venais tous les 4-5 mois... À Paris, il fallait faire 1000 km quand j'étais à Bagdad, hein, parce que l'aéroport a été fermé, pour aller jusqu'à Amman. Et à chaque fois, c'est lui qui demandait que je passe, parce qu'il y avait aussi une passion d'Irak, qu'on pouvait comprendre dans les années 75. J'étais d'ailleurs jeune rédacteur chargé de l'Irak. C'était au moment où Saddam Hussein était fréquentable. Et fréquentable par aussi les États-Unis. Et Tariq Aziz aurait pu, il est décédé maintenant, s'il avait été libéré, écrire un livre de ses contacts avec les Européens, la France, les Américains. Et puis c'était un pays qui se modernisait. Vous pouvez voir, moi j'en ai vu. Ça a été la politique de Saddam Hussein dans le début, quand il était vice-président. Et après, il y a eu cette dérive épouvantable, bien entendu. Et il avait besoin de comprendre, parce que c'est un homme qui avait besoin de comprendre. Et puis, il souhaitait que la France ait un rôle parce qu'il était sensible à la question humanitaire, contrairement à ce qu'on peut croire. Et alors, j'ai oublié de dire que Saddam Hussein ne recevait pas les ambassadeurs, même les vrais, sauf s'ils accompagnaient un émissaire. Alors, à deux reprises, parce que c'est nous qui avions imposé aux Irakiens qu'ils acceptent les inspections des palais présidentiels, et donc le secrétaire général, Bertrand Dufour, arrive avec un message qui a été préparé. C'était intéressant, vous voyez, le travail que j'avais préparé avec la cellule diplomatique, avec le Quai d'Orsay, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme contenu dans ce message. Et alors, d'une grande fermeté. C'est pour ça que j'en ai publié, parce que j'ai eu accès, l'autorisation d'avoir accès aux archives du président, l'ancien président Jacques Chirac, pour retrouver ce message d'une grande fermeté. Grande fermeté pour dire à Saddam Hussein, il faut coopérer. Avec, même si c'est injuste, si ça se passe mal, de toute façon, on vous fera prendre la responsabilité. Et alors, Saddam Hussein, d'abord, moi, j'ai assisté à la séance du thé avec un goûteur. Il y avait un goûteur, très discret, mais il arrive avec nous, donc nous étions 4 ou 5. Et comme il y avait des preneurs de notes, moi, je vais observer. Observer l'attitude. Il n'a pas aimé, d'ailleurs, Saddam Hussein. À un moment, il a lancé un regard, il a vu que je l'observais assez. Alors, c'est là, il avait des gestes très, très lents, tout ça, très posé, mais c'était le regard qui était effrayant. Et il a vu que je voyais la cérémonie du thé, parce qu'il y avait deux hommes, et en principe très discret, quand sur le guéridon, on pose une tasse de thé pour Saddam Hussein, et puis il y a le goûteur qui, hop, il nous tournait le dos. Mais j'ai vu, hop, il avalait la deuxième tasse, et Saddam Hussein ne buvait la sienne que 5 minutes après. Quand même, c'est... Et puis alors, il lit le message avec beaucoup de lenteur, il regardait par la fenêtre, il regarde le message, et puis il nous dit dans son bon arabe... Enfin, bon arabe, c'était moi, j'avais du mal à le comprendre, Tariq Aziz, à 100%, mais lui, il est très bédouinisé, ce qui montrait l'absence de culture de Saddam Hussein. Et il dit, manque quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire sur le fond? Quand le président Chirac m'écrivait, alors ça remontait à des décennies, il mettait, il y a Sadiq al-Aziz, cher ami. Et là, il n'y a pas Sadiq al-Aziz, il n'y a pas cher ami. Bon, alors la conversation s'est vite arrêtée, il y a eu des échanges, toujours dire... Et puis alors, quand on parlait de l'inspection des palais, il dit, mais ce sont les palais du peuple, ils appartiennent au peuple d'Irak. Mais c'était... Alors on l'a rencontré une deuxième fois, après, disons, la signature d'un memorandum of understanding entre Tariq Aziz et Kofi Annan, qui a permis justement l'inspection. On l'a vu une deuxième fois, alors là, j'ai vu un homme totalement déjanté, avec une mise en scène... dans un palais qui était, alors là, 300 kilomètres de Bagdad, alors que nous avions rendez-vous au cœur de Bagdad, dans son palais, là où il travaillait d'habitude, et hop, et sans nous dire, j'ai deviné qu'on allait vers Tiklit, c'était un nouveau palais immense, là aussi, avec une mise en scène, il était en abaya, enfin bon. Et donc ça s'est pas très bien passé, parce qu'il ne pouvait pas admettre que Chirac lui dise, maintenant, il faut respecter ce que vous avez signé, la signature de l'Irak, et comment, moi, etc. Donc, il se sentait un petit peu humilié. Alors, voilà. Là. Alors, pour vous parler, parce que je reviens à la relation avec le président, moi, je voulais avoir un autre poste, pas forcément dans le monde arabe, mais plutôt au Maghreb. Hubert Védrine me reçoit, il me dit, est-ce que vous voulez être directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient? Bon, c'est une direction prestigieuse, mais un peu pesante. J'ai dit, non, c'est pas... Voilà, j'ai d'autres choix. Alors il me dit, mais sachez que le président va vous en parler. Alors, le président me reçoit parce qu'il voulait à chaque fois me voir quand je passais à Paris. Et puis, il me dit, on va parler de 3 choses. On va parler de la situation en Irak, et on va parler, il voulait me décorer. Bon, je n'ai pas fait acte de courage, hein. Puis je n'avais pas de problème de sécurité. Par contre, les héros, là, les courageux, ce sont ceux qui sont à Bagdad actuellement. Là, la sécurité était totale, sauf, bon, il y avait les bombardements américains de temps en temps. Et puis, je vais vous parler de votre avenir. Donc, vous serez directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient. Ah. Alors, quand le président de la République, quel qu'il soit, vous dit ça, on accepte forcément, on ne peut pas faire autrement. Et puis, finalement, ça a été un poste qui a été passionnant. Et là, j'ai vu, effectivement, la passion de Jacques Chirac pour le monde arabe, qu'on partageait, d'ailleurs. On parlait de culture de temps en temps, de littérature, de musique, parce qu'il posait beaucoup de questions. Parce que j'ai dû faire une 20aine de voyages, parce qu'il était toujours entre le Maghreb et le Mashrek, Donc il était toujours en déplacement, ou pour des visites d'État, ou quand il y a eu septembre 2001, il a fait toute une tournée dans le monde arabe. Et au moment où moi j'étais, c'était la chance de... c'est d'être au moment où il y a eu l'émergence de nouveaux chefs d'État. Il y a eu Bouteflika, des bonnes années de Boutef. On a lancé la refondation de la relation franco-algérienne. On était au degré zéro avant, à l'époque de Zeroual, de la relation franco-algérienne. Et puis, voilà que Hassan II décède, dont Mohamed VI, il y a cette ouverture. Avec la Tunisie, la relation était plutôt médiocre. Elle a toujours été, même quand j'étais en poste en Tunisie, avec le président Ben Ali. Et puis, il y avait le roi Hussein de Jordanie. Donc, il y avait la question israélo-palestinienne, où nous jouions un rôle aussi important. Et ce que je veux vous dire, dans ce livre, ce que j'explique, c'est nous n'étions pas, quand il y a eu les négociations à Camp David, pendant l'été 2000, on n'était pas très loin d'un accord. Alors, on n'était pas à Camp David. Mais on se tenait informé, bien entendu, par les Palestiniens et par les Américains, qui donnaient aux Américains assez peu d'informations, mais on avait quand même quelques indices qu'il y avait peut-être là une perspective. Bon. Mais ça a beaucoup coincé sur Jérusalem. Il y a Madeleine Albright, qui, lorsqu'elle appelait Hubert Védrine, ici Hyper Madeleine, parce que vous vous souvenez que Védrine parlait de l'hyperpuissance. C'est lui qui a inventé disons, le concept d'hyperpuissance, Hyper Madeleine, et qui a demandé, écoutez, nous, Jérusalem, c'est compliqué. Un problème de souveraineté partagé, quartier arabe, quartier juif, quartier arménien, partagé, enfin c'était compliqué, les lieux saints, souveraineté verticale, horizontale, tout ça est très compliqué. Vous avez un passé, vous avez une connaissance, comme dans l'histoire, protecteur d'une partie des communautés chrétiennes, est-ce que vous pourriez nous faire, disons, des propositions? C'est ce que j'appelle l'ingénierie diplomatique que nous faisions, on l'a fait aussi sur le Golan. Et alors, donc, on a fait, et c'était en été, donc j'ai interrompu mes vacances pour faire un travail avec mon équipe. Et pour envoyer ça aux Américains, je suis allé à Washington, leur présenter. Ils avaient trouvé qu'effectivement, là, c'était très intéressant. On faisait un travail aussi très discret, voire secret, avec le Vatican aussi. Le Vatican qui avait une diplomatie très active pour, justement, c'est l'accès aux lieux saints. Il y avait des idées, etc., qu'on partageait. Et ce qu'on appelle l'ingénierie diplomatique qu'on faisait dans cette direction. Parce que beaucoup de gens disaient, mais quel est le rôle de la France? Ils disent, nul, ils ne sont pas là, les Français. Ben, évidemment, on ne pouvait pas avoir le premier rôle sur le conflit israélo-palestinien. Mais on peut faire de l'ingénierie diplomatique, on peut faire avancer les choses. Et il y a eu quand même un grand moment européen, parce que moi j'avais toujours pensé, enfin ça c'était aussi la politique du président de la République et d'Hubert Védrine, de passer par l'Europe et d'obtenir des déclarations européennes très fortes, justement, sur la question palestinienne. 1999, c'était mon prédécesseur qui avait commencé à faire un travail extrêmement complexe avec quelques partenaires européens pour aller vers ce qu'on a appelé la déclaration de Berlin, qui a été la première déclaration où on parle de la perspective de l'État palestinien qu'on reconnaîtra en due time, le moment venu. Vous vous rendez compte, on est en 2019. Alors, puisque notre président parle de la diplomatie de l'audace, on va essayer à plusieurs de faire peut-être de rencontrer l'équipe élyséenne, parce que je m'occupe beaucoup de ce dossier-là, pour dire que maintenant, la diplomatie de l'audace, ce serait peut-être, de reconnaître l'État palestinien pour éviter effectivement que la perspective de l'État palestinien, la perspective de la solution des États disparaisse. Voilà. Alors, on faisait comme ça de l'ingénierie diplomatique sur le Golan aussi. Alors, par exemple, je vais vous dire pour le Golan. Donc, nous étions à un moment plus ou moins intermédiaire entre les Syriens, les Israéliens et les Américains. Ils se parlaient quand même. Mais voilà, on faisait passer, on arrivait à avoir des choses, des idées intéressantes qu'on partageait, et ça avec les Syriens s'agissant du Golan. Et on n'était pas loin, enfin, objectivement aussi, d'un accord, puisque. Je pense qu'il y avait, c'était l'époque de Ehud Barak, là, bien entendu, de l'évacuation du Golan, à des conditions évidemment drastiques, de surveillance, des stations d'alerte auxquelles on aurait pu participer et tout ça. Alors, il y avait le problème, pour ceux qui connaissent l'affaire du Golan, donc le Golan qui donne sur le lac Tibériade, les Israéliens voulaient garder une bande de terre, de moins de 100 mètres, je ne sais plus, c'était 50, 60 mètres. Et Hafez el-Assad, que j'ai rencontré à la demande de Chirac, je suis devenu de manière très curieuse, comme ça, en accord avec Vedrine d'ailleurs, son émissaire pour les questions du Proche-Orient. C'est-à-dire je portais des messages du président de la République et tout ça, qui me permettaient d'avoir accès au chef d'État. Et j'avais compris de la part de Hafez el-Assad que jamais il ne donnerait une concession sur la terre. Il est prêt à des concessions sur le lac de Tibériade, des concessions de surveillance. Mais il ne fallait pas que ce soit des Israéliens, voire des Américains, des Français, d'autres. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne me souviens plus c'était quel mois, en 2000, il y a eu la rencontre entre Hafez el-Assad et Clinton. Et Clinton était convaincu, les Américains, et était convaincu que Hafez el-Assad allait céder parce qu'il était très malade. Il savait qu'il était en fin de vie. D'ailleurs, moi, j'étais lundi dernier à l'avoir vu. C'était assez terrible. On était obligé d'interrompre l'entretien. Et ça, je le raconte, je crois, un petit peu, parce qu'il avait un cancer du sang. Et voilà que Clinton dit, oh, voilà, monsieur le président, il s'adresse à, lors de cette rencontre, qui avait finalement été très brève, voilà dans quelles conditions on peut... Voilà le point de vue américain, et je pense que vous pourriez accepter, disons, un accord. J'en ai parlé, disait-il, aux Israéliens, et commence à lire un document. Et Hafez el-Assad l'interrompt. Il lui dit, mais monsieur le président, là, vous êtes en train de me lire un document israélien, c'est le point de vue israélien. Et il a interrompu l'entretien, Hafez el-Assad, et il a dit, maintenant, vous pouvez continuer la lecture du document devant Shara, le ministre syrien des Affaires étrangères. Et ça a été un flop, mais total. Et je me souviens avoir vu les Américains, les Israéliens avant, parce qu'il y avait... Je dis, vous savez, tel... Bon, je connais la Syrie un petit peu. Bon, j'étais en poste aussi. Et puis, je connais un peu leur histoire. Mais jamais, moi, à mon avis, il lâchera la terre. Pourquoi ? Ben parce que c'est lui qui l'a perdu lorsqu'il était ministre de la Défense en 1973. Et donc, jamais il lâchera. Et donc, là, il y a eu effectivement un moment assez, assez curieux. Alors voilà, disons parmi... Je ne vais pas vous délivrer donc, ce que nous faisions dans cette direction. Ça a duré 4 ans. Et puis après, bon, ben, je suis allé en Tunisie parce que je pensais que... Parce que souvent, les diplomates, vous savez, ont tendance à mettre des étoiles. Aux ambassades, c'est plutôt résidence. Alors, évidemment, quand on arrive au palais Farnèse, c'est cette étoile. Hein. Et c'est pour ça que certains, très jaloux, et moi, je n'ai jamais compris pourquoi on m'avait nommé là. Je n'étais pas demandeur du tout. J'avais commencé par refuser, n'étant pas italienisant. Mais en Tunisie, j'ai voulu y aller parce que, justement, c'était important. J'avais fait toute une réflexion, justement, une politique, la priorité Maghreb. Donc, il y avait l'Algérie. Avec ce changement, Bouteflika, le jeune roi, puis voilà que les choses restaient... Puis nous avions, quand j'étais directeur à Nemo, une relation extrêmement difficile avec les Tunisiens et avec le régime de Ben Ali. Et donc je me dis, tiens, ben ça, voilà, on est dans une situation un peu complexe. Et puis beaucoup le prenaient pour un poste Club Med. Pourquoi ? Parce qu'il y a une magnifique résidence, petite, c'est rien à voir avec la magnificence du Palais Farnèse, et avec un parc, et puis au bord de la mer, etc. Bon, c'était agréable. Mais la relation était difficile. Et bien moi, j'ai interrompu. D'ailleurs, on m'avait prolongé une quatrième année, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'étais sous surveillance permanente, et ça devenait intolérable. Et même mon épouse, on la suivait. Parce que nous étions en contact avec la société civile, et aussi les artistes, parce qu'il y a des grands artistes en Tunisie, et j'ai fait... La même opération que j'ai faite plus tard au Palais Farnèse, une rencontre de sculpteurs. Il y avait Bernard Venet, Bernard Pagès, français, et puis aussi des artistes tunisiens. Et c'était une rencontre. Et alors, c'est comme au Palais Farnèse, je vais terminer là-dessus, à la culture, il y a Plaudy, qui était président du Conseil, qui me dit « Ah, monsieur l'ambassadeur, il se passe quelque chose au Palais Farnèse. Ben, » Je dis « Oui, on fait une exposition. » Il me dit, est-ce que vous pouvez, avec mon épouse, me la présenter ? Il ne s'intéressait absolument pas à la création contemporaine. Et il était là un peu ébahi, parce qu'il y avait des installations quand même assez étonnantes, notamment de Christian Boltanski dans mon bureau. Et il dit, ah, c'est très bien. Mais il a vu le geste politique. C'est comme en Tunisie, je vous en parlais. Il a dit, monsieur l'ambassadeur, je vous félicite parce que vous avez rendu ce palais Farnèse aux Romains pendant un temps. Il y a toujours cette revendication, la France qui est installée dans le plus beau palais de Rome. Et il a vu le geste politique. Et en Tunisie, moi j'étais très frappé par les commentaires de la presse lorsqu'on a fait cette grande rencontre, ouverte complètement au public. On fouillait, quand on fouille, au Louvre, etc. Donc il y a des milliers de personnes. Pour la première fois, donc tout le monde avait accès à la résidence de la Marsa. Et il y a eu le titre d'un article, « Les murs tombent ». Parce qu'on devinait la résidence sans pouvoir y rentrer. Et puis, on y trouve implicitement la référence à la question des visas. C'est ça. Donc, là, une France qui se ferme, il y avait beaucoup de problèmes avec les visas. Et donc, le geste était effectivement à la fois culturel, de qualité, parce qu'on avait... Et tout ça financé, l'un comme l'autre, par le mécénat. J'avais réussi à réunir mécénat en Tunisie et en Italie. Et donc là, c'est aussi un geste politique. Et c'est comme ça que j'arrivais en Tunisie à être proche, mieux comprendre la société, même si on n'a pas vu beaucoup de choses. En erreur, c'est ne pas avoir vu ce qui se passait à l'intérieur du pays. Parce que quand on est là-bas, ben, c'est la bande côtière, c'est donc Tunis, c'est bon, jusqu'à Sfax, c'est Bizerte, et puis l'intérieur du pays. Et c'est là où les choses se sont passées. Ceci, on peut dire que nous n'avons pas eu l'occasion de bien voir ce qui pouvait se passer dans cette région. Mais voilà, peut-être... et puis, un dernier mot, parce qu'à quoi servent les diplomates, vous voyez bien. Alors, juste dans le dernier mot, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, les gens s'interrogent, mais enfin, et la mobilité des chefs d'État et des hommes politiques. La diplomatie du téléphone, toujours. À quoi servent les diplomates? Alors, on peut se poser la question lorsqu'on est à Rome. Mais avant tout, parce qu'il y a, disons, cette multiplication d'informations qui arrivent aux personnalités politiques, et y compris maintenant des fake news. Moi, j'ai connu deux catégories de ministres. Je vais vous parler des deux meilleurs, mais pas des autres. Ce sont des ministres de l'écrit, en quelque sorte, et qui lisent les télégrammes. C'était Juppé et Védrine. D'ailleurs, ils sont très liés. Et parfois, ils ont fait une tribune aussi ensemble dans Le Monde, il y a quelques années. Et puis, ceux que je ne veux pas nommer, c'est la tradition orale, si je puis dire. Ils n'y lisent rien. Et j'en ai la preuve de l'un d'entre eux qui a passé quelque temps au palais Farnèse. Il était toujours sur son portable. Alors, peut-être qu'il voyait le télégramme. Alors, il y avait des problèmes de sécurité. Et alors, donc, ils s'abreuvent effectivement de nouvelles venues d'un peu partout. Et le rôle d'un ambassadeur, ben, d'un diplomate en général, il est ce que j'appelle, j'ai inventé un peu ce terme, décrypteur des situations. Il peut faire la synthèse et il décrypte. Il peut donner effectivement une analyse plus ou moins longue qui peut être accessible pour des hommes d'État qui sont effectivement très très pris par la lecture. Et puis... voilà, donc on a encore besoin des diplomates. Voilà. Mais je vous remercie. Je vais peut-être répondre à vos questions.